Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Grand bonjour à vous Yann Kefelec. Nous avons le plaisir de vous accueillir à bord de Laissez-vous tenter car vous publiez aujourd'hui même votre dictionnaire amoureux de la mer aux éditions Plon. 650 pages pour un peu moins de 150 mots, dont le mot mer. Évidemment, vous en donnez une magnifique définition dès les premières phrases de votre livre. La mer, une innombrable goutte d'eau. Je vous laisse commenter.
J'aime beaucoup grandir ce qui a l'air petit, donc je pense que tout a commencé avec cette goutte d'eau qui est tombée sur la Terre il y a quelques milliards d'années maintenant. On ne sait même pas si elle était salée. Elle a été suivie d'autres gouttes d'eau. Personne n'a pu la goûter. Petit à petit, tout cela s'est agrandi pour donner l'océan. Ce qui me plaît aussi avec cette idée de goutte d'eau, c'est que ce qu'on appelle la planète Terre, en fait, c'est la planète mer. Lorsqu'on a vu comme ça, il y a eu la photo de la planète Terre dans la nuit. Vu dans l'espace, on a vu que c'était une formidable goutte d'eau à bord de laquelle nous vivions et que nous avions le devoir de protéger.
Alors à bord avec nous ce matin, Bernard Lehu, notre timonier des livres, Sophie Orange qui revient de l'île de Porquerolles, où s'ouvre samedi au public la fondation Carmignac. C'est un écrin absolument paradisiaque pour une collection d'art contemporain exceptionnelle. Bernard, on va prendre le large tout de suite avec le dictionnaire amoureux de notre capitaine du jour, Yann Kefelec.
Et tout d'abord, un mot Yann sur la forme, comme dans votre précédent et très réussi dictionnaire amoureux de la Bretagne. Et en bon flibustier des mots, vous cassez les codes du dico en écrivant un véritable récit où les quelques 150 mots-clés que vous avez retenus viennent ponctuer, rythmer le texte. On lit donc votre dictionnaire dans la continuité, avec fluidité, comme un grand roman de la mer. J'ai plutôt envie de parler de ça, d'un roman de la mer, dans lequel, Yann Kefelec, vous n'hésitez pas à vous mettre en scène. Vous racontez ainsi l'éveil de votre amour pour la mer, à la lettre A, comme la mer Ildut dans le Finistère, le bercail des Kefelec.
Alors cette lettre A, pour moi, c'était l'occasion de dire au revoir au dictionnaire amoureux de la Bretagne. Écrivant le dictionnaire amoureux de la mer, la Bretagne ne pouvait pas, bien entendu, ne pas occuper sa place dans ce livre. Et en même temps, il ne fallait pas que ce soit un dictionnaire amoureux de la Bretagne, bis.
Donc, même s'il y a beaucoup de Bretagne.
Même s'il y a, bien sûr, je suis...
Avec Kefelec, la Bretagne n'est jamais loin.
J'emmène partout autour du monde, même en Méditerranée, où nous irons tout à l'heure, et avec bonheur en plus. Donc la lettre A, pour moi, c'était au revoir, bonjour et au revoir à la Bretagne, et un rappel de l'homme que j'étais par rapport face à la mer, enfant de Bretagne.
Alors, donc, dans cette Aber, Ildut, le berceau de la famille, on le disait tout à l'heure, vous avez plein de souvenirs et vous y avez commis, notamment, votre premier exploit de marin. Et vous l'aviez raconté lors de l'émission Chemin d'écrivain que nous avions enregistré sur place. Petit extrait, petit souvenir.
Avec plaisir.
Autrefois se trouvaient les yachts à voile de l'oncle Jo. Lorsqu'il est parti donc s'établir en Indochine, a laissé ses bateaux et il n'est jamais revenu. Moi, je les voyais d'une année sur l'autre. Ces bateaux étaient de plus en plus abîmés et cela me désespérait. Et ma tante Jeanne, donc, m'avait interdit de m'approcher de ces bateaux. Sauf qu'une fois, j'avais un peu plus de 12 ans, j'ai carrément détaché l'un de ces bateaux. Là, j'ai hissé les voiles et je me suis laissé partir à la dérive. Ça s'est terminé par la vision de mon père en pantalon blanc et en vareuse blanche à l'avant d'une vedette des affaires maritimes, pointant son index sur le fils criminel. De toute façon, cela n'a fait que renforcer mon amour pour les voiliers. Petit garçon, je rêvais de tour du monde à la voile.
Alors...
nos actes nous suivent, comme disaient les anciens. Je vois avec terreur ressurgir à la fois un souvenir et un fait maritime qui n'est pas à ma gloire. Je revois en même temps mon père, effectivement, toujours en pantalon blanc et en chemise blanche. Il passait pour un espion anglais en Bretagne dans ces années-là. Et la statue du commandeur, l'index pointé désignant le fautif. Je ne ferai plus de bêtises pareilles aujourd'hui.
Dites-moi, alors Yann Kefelec, vous avez fait mieux plus résultat en coulant un voilier pour épater des filles, évidemment.
Oui, mais ça, j'étais à la fois dans la peau du commandant Smith, capitaine du Titanic, et du commandant Quétineau, qui a refait la même bêtise à bord de son Costa Concordia. Alors évidemment, c'était pas un bateau aussi grand, mais l'erreur, quand on pense s'y connaître, quand on s'en prend pour un vrai marin, c'est l'instant où on se dit « moi je te connais à la mer ». On se dit « je vais passer entre le danger et la balise, parce que je sais où je suis ». Sauf qu'en passant entre le danger et la balise, eh bien, il arrive parfois que l'on coule son bateau, ce qui m'est arrivé en pleine nuit sur un voilier qui était en effet rempli de très jolies jeunes filles, qui étaient toutes en train de me dire « tu es formidable, quel grand marin, quel loup de mer tu es !»
Tout le monde n'est pas le capitaine Troy.
Non, tout le monde n'est pas le capitaine Troy, tout à fait. Mais là, j'étais le capitaine Destroy.
Excellent. Alors, marin était donc votre première vocation. Vous avez convoyé des bateaux. Et vous parlez d'un grand rêve océanique brisé qui continue d'habiter mes nuits blanches. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? La littérature ne vous comble pas ?
Si, la littérature me comble. Non seulement elle me comble, mais c'est à bord de la littérature que je fais maintenant le tour du monde, que je le fais en voilier et de mille et une manières. Mais il est vrai que petit garçon, à l'époque où j'empruntais les yachts de l'oncle Joe pour partir à la dérive, je pensais vraiment que ma vie serait un jour de faire le tour de cette innombrable goutte d'eau. Et en plus, j'aurais la possibilité d'être écrivain sur l'un de mes voiliers. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Le jour où je suis parti, mon bateau est tombé en panne. J'ai dû faire demi-tour, arriver sur la côte espagnole. Je le vends, le mauvais temps m'a rabattu sur le port de Belle-Île-en-Mer, où là, mon destin m'attendait. J'amarrais mon voilier sur un quai battu par la tempête, enjambé par les lames. J'entends une voix qui me dit « Toi, chérie, tu as une gueule d'écrivain !»
C'était Françoise Verny, éditrice.
C'était Françoise Verny. Elle aurait dit « Tu as une gueule d'écrivain à Lampadaire si on avait rencontré un. » C'était moi, c'est tombé sur moi. J'avais plutôt une gueule de marin ou une gueule de fou. Le fait est que je suis devenu écrivain. Après l'avoir rencontré.
J'insiste pour nos auditeurs, histoire vraie. C'est-à-dire, vous vous trouvez rabattu par la mer et à quai, il y a Françoise Verny.
Non seulement l'histoire est vraie, mais j'étais sur un bateau en panne de moteur et les moteurs sont très importants aujourd'hui sur les voiliers. Ouais. Je manœuvrais à la voile dans le port de Le Palais. J'ai défoncé un certain nombre de navires au mouillage pour amarrer le mien. Et en effet, Françoise Verny était là et mon destin a bifurqué à ce moment-là.
Cette mer est menacée aujourd'hui, hein, notamment par la pollution. C'est une inquiétude très présente dans votre dictionnaire amoureux. Est-ce qu'il est trop tard pour agir, Yann Kefelec ?
J'ai eu trois bonnes fées pour me faire une vision juste de la situation écologique de l'océan aujourd'hui. Catherine Chabot, Karine Clairaut et Isabelle Autissier. Je dis trois bonnes fées parce que ce sont les femmes qui ont le plus beau discours sur la pollution des mers aujourd'hui et sur le délabrement que l'homme inflige à l'océan par des comportements que l'on peut qualifier d'orduriers, c'est-à-dire ces milliards de mégots qui partent à la mer, ces milliards de coton-tiges, de paille coudée, de couches culottes, etc., etc., dont l'espérance de vie sous l'eau est supérieure à celui des pyramides. C'est donc extrêmement inquiétant parce que cela rompt la chaîne alimentaire, parce que cela pollue, etc., parce que de mille et une manières, cela compromet l'avenir direct de la mer, c'est-à-dire le nôtre. Or, Karine Clairaut, Isabelle Autissier et Catherine Chabot, si elles disent avec force et avec connaissance de cause ce qui se passe sous la mer, n'en sont pas moins résolument optimistes. Et c'est cet optimisme, moi, que j'ai voulu faire mien, parce que ce livre n'est pas du tout un cri de désespoir ni d'effroi, c'est un cri d'amour, et en même temps, c'est un cri de « ressaisissez-vous, allons-y, nous sommes les hommes ».
Je voulais revenir sur l'une des victimes de cette pollution de la mer, qui est l'ours blanc en péril aujourd'hui. Et alors, vous en faites, parce qu'on est dans la littérature avec ce dictionnaire amoureux, vous en faites un formidable portrait d'affamé perpétuel. Et vous avez cette formule formidable, où vous parlez de l'ours comme blanc, polaire, comme d'un dîneur mal léché. Mais il bouffe tout, cet ours.
Mais parce que l'ours, c'est l'homme. C'est l'homme, à force de se prendre pour l'homme, il oublie qu'il est un animal au milieu des autres. Et donc, moi, il m'a plu de me mettre dans la peau de l'ours et d'être un homme dans une peau d'ours. De même que j'ai essayé d'être un homme dans une peau de... dans une coquille de Bernard l'Ermite. Et on y arrive très bien. Le romancier arrive à se mettre dans tous les êtres vivants. Un jour, j'essaierai de me mettre dans la peau d'un phytoplancton qui va être avalé par un zooplancton.
Avant, il y a un autre stade, c'est le bigorneau, si vous voulez essayer de...
Mais bien sûr, le bigorneau. Non, mais l'ours est un animal extrêmement attachant parce que c'est un animal infini. infiniment solitaire, qui a une faim d'ours et qui ne trouve rien à manger. Donc il est pardonné pour tous ses excès alimentaires.
Yann Kefelec, on fait une courte escale avant de reprendre notre navigation à l'occasion de la sortie de votre dictionnaire Amoureux de la mer. Il est publié chez Plon, un dictionnaire, je le précise, que nous ferons gagner tout à l'heure à nos auditeurs. A tout de suite.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
9h12, nous sommes toujours en compagnie de Yann Kefelec qui publie le dictionnaire Amoureux de la mer chez Plon. La mer est souvent une histoire d'hommes et de femmes d'exception. Vous en avez cité beaucoup depuis le début de cette émission. On peut ajouter Tabarly, Florence Artaud, Jean Le Cam, Loïc Perron, Kersauzon. Pour qui avez-vous le plus d'admiration ou peut-être d'affection, Yann Kefelec?
Alors c'est un peu comme l'ours. Moi, ce que j'aime bien, c'est les anti-héros, c'est celui auquel on ne pense pas. Mm-hmm. J'aime énormément Olivier de Kersauzon parce qu'on en a fait une espèce d'amiral du micro et que l'on a tendance aujourd'hui à oublier ses hauts faits maritimes. C'est quelqu'un qui a pris d'énormes risques sur la mer, qui est un grand marin, qui n'est à l'aise finalement et équilibré que lorsqu'il a le pont d'un bateau sous les pieds. Il passe sa vie sur la mer, il connaît extraordinairement la cartographie du monde et en plus il en parle avec une espèce de génie. C'est à la fois un grand écrivain et c'est à la fois un grand marin et un grand écrivain de la mer qui, paradoxalement, n'écrit pas. Mais lorsqu'il publie des livres comme ça, dont la parole, la substantifique moelle, a été recueillie par un porte-parole, on s'aperçoit qu'il a toujours la bonne image, l'image concrète, l'image vraie, celle que la mer est heureuse d'entendre à son sujet.
Vous lui rendez un très bel hommage, en tout cas.
Alors justement, je voulais citer à propos de Kersauzon, vous en parlez à plusieurs reprises, page 351, je vous cite Yann Kefelec, il parle, on est subjugué par cette verve poétique en liberté non surveillée, l'école Rabelais, Villon, le libre envol du rire et des mots. Bel hommage.
Il y en a un autre qui a ce libre envol du rire et des mots qui malheureusement n'est plus, c'est Bernard Giraudot. Mais Bernard Giraudot admirait énormément Kersauzon. Ce sont des marins qui savent très bien que dire la mer, c'est dire l'homme à travers l'évocation maritime. Ça n'est pas se contenter de décrire l'élément en s'imaginant qu'on va pouvoir s'égaler à l'élément par la puissance des mots, comme tellement d'écrivains, entre guillemets, dits de la mer, ont pu le faire au risque de se perdre.
Alors la mer, ce sont aussi des mots, des expressions, tout un vocabulaire qui vous enchante et que vous célébrez en permanence dans votre dictionnaire amoureux.
En même temps, je suis extrêmement méfiant à l'égard du vocabulaire maritime. Je ne veux absolument pas ghettoiser la situation par le lexique en excluant justement de la mer ceux qui ne connaissent pas le sens du mot naval. Oui, donc je me moque aussi de ces auteurs qui ont été constamment dans la surenchère du vocabulaire maritime et finalement on ne voit plus la mer, on ne voit plus que des mots, on est complètement dans le brouillard. Moi j'ai essayé de débrouillardiser la situation comme j'ai pu.
Je ne le dirai pas.
L'églantine des prés, je ne le dirai pas, absolument pas. Bon, c'est l'animal aux grandes oreilles. Non, c'est une vraie panique à bord d'un bateau quand on commence à dire ce mot.
Mot interdit pour les marins.
Interdit pour les marins parce que fut une époque où les lapins, lorsqu'on les transportait,
nous on peut le dire, lapin.
Les transportait, donc ils avaient tendance à ronger les fonds en bois des navires qui sombraient avec des animaux à grandes oreilles remplis de copeaux de bois.
Bon, on oubliera le mot lapin.
La mer a souvent inspiré les écrivains. Quel est celui qui, selon vous, en a le mieux parlé?
Alors, la mer a énormément inspiré les écrivains. La mer est adorée par l'ensemble de l'humanité. Il est rare de rencontrer quelqu'un qui n'est pas la mer. Et en même temps, la littérature dite maritime a tendance à gaver la majorité des grands lecteurs. De temps à autre, on tombe sur un grand écrivain de la mer. Le grand écrivain de la mer, c'est celui qui a le mieux dit l'homme. Donc c'est vrai que Melville, dans Moby Dick, est peut-être le plus grand parce que c'est le drame humain qui est considéré dans son ensemble à travers cette incroyable expédition comme ça du capitaine Ahab à la recherche de la baleine blanche. Un autre texte est incontournable, il faut absolument le lire et pas simplement faire semblant de l'avoir lu comme on fait avec Proust, c'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. C'est absolument extraordinaire, c'est d'une modernité à toute épreuve et quand on est dedans, on est dans tout ce questionnement humain aussi vivace à cette époque-là qu'il l'est aujourd'hui pour nous.
Je alors il y a pardon, oui.
Moby Dick, l'Iliade, l'Odyssée. Ouais. Voilà, vous avez c'est le trio de tête.
La sainte trilogie de Yann Kefelec. Alors il y a une autre entrée qui est là, qui est plus surprenante. Hergé, le créateur de Tintin. Mais qu'allait-il faire dans cette galère?
Il a toute sa place. C'est un grand auteur de la mer. Hergé, moi je pense que j'ai commencé à vouloir faire le tour du monde lorsque j'ai lu le trésor de Racam le Rouge, et qu'il y a la double page où on est au fond de l'eau avec Tintin et Milou dans son esclave. C'est de toute beauté.
Et quand on invente le capitaine Haddock avec un petit peu de beurre fondu et de citron, c'est parfait. Mais
complètement. En plus, grand buveur de Le Monde, là, son whisky irlandais. Non, mais c'est formidable, Hergé. Il y a un vrai amour de la mer. Avec une petite planche de rien, il vous emmène en mer.
Alors, on chante souvent sur les bateaux ou dans les ports. Vous en parlez également. S'il fallait choisir une chanson, Yann Kefelec, qui résume votre lien avec la mer,
ce serait la chanson que je ne cite pas, d'ailleurs, dans le dictionnaire amoureux de la mer. Mais alors, honte à moi, parce que c'est une de mes chansons favorites. C'est la chanson de Renaud, « C'est pas l'homme qui prend la mer » qui est de toute beauté.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens. Un mardi, j'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. »
Alors voilà, vous venez de faire une remarque très simple et tout à fait juste. Vous avez dit c'est beau. En fait, elle vous touche cette chanson, en plus de l'humour qu'on y trouve.
Elle me donne des frissons. Ouais. C'est de la belle langue française. Dès que le vent souffleront, je repartiront. Pour moi, c'est ça la langue française. C'est aussi le courage de casser la grammaire à un certain moment pour réjouir l'oreille aux dépens du cerveau. C'est de toute beauté.
Je vous demande de fermer les yeux. Quelle est votre la première chose qui vous apparaît dans l'esprit, les yeux fermés, quand vous pensez à la mer, Yann Kefelec?
Je ne pense pas. Ce que je vois, c'est je ressens une odeur combinée de diode et de femme, car je suis à ce moment-là dans les bras d'une nounou bretonne à forte transpiration, et cette odeur est encore présente dans mes narines, cette combinaison de la mer et de l'odeur de femme.
Et alors l'endroit qui incarne le mieux ça, vous êtes le plus amoureux de la mer?
Non, mais évidemment la mer Ildut, c'est-à-dire quand je dis la mer Ildut, j'ai des battements de cœur. Lorsque j'y suis, des kilomètres avant, je commence à... Voilà, je commence à vibrer de partout, si j'ose dire. Et quand j'y suis, je suis moi. C'est-à-dire que je redeviens l'enfant que je n'ai jamais cessé d'être, finalement, tout en étant l'adulte que je suis en face de vous actuellement.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, pardon, je précise, la mer Ildut, c'est au nord de Brest, hein, c'est ça?
Ils sont trois abers au nord de Brest à mériter le nom d'abers. La mer Ildut, la mer Benoît, la mer Vrac. Chacun est différent de l'autre. En même temps, ce sont pour chacun d'eux des enclaves fluvio-maritimes, humectées par des rivières à l'est et mouillées par l'océan quatre fois par jour à l'ouest.
Le mot aber a une signification particulière.
Il signifie creux, semble-t-il, mais c'est un terme celtique extrêmement mystérieux que l'on retrouve en Espagne, mais là, on l'appelle ça ria.
Si on a envie de faire découvrir cette mer à un enfant, on l'emmène où?
On l'emmène à la mer Ildut, naturellement. Mais on l'emmène à la mer Ildut parce qu'il pourra faire de la voile sur cette espèce de plan lacustre de la mer, et ensuite s'initier progressivement à l'océan qui, il suffit de franchir la passe du crapaud, c'est un rocher, pour être en contact avec l'océan. Il sera heureux là-bas.
Yann Kefelec, nous offrons le dictionnaire amoureux de la mer dédicacé par vous et publié chez Plomb. Pour cela, il faut bien entendu que nos auditeurs nous appellent au 3210 et qu'ils répondent à la question qui va tout de suite être posée par Bernard Lehu.
Alors, il fait partie des 140 cités dans ce dictionnaire. Quel est le mot qu'il est interdit de prononcer à bord d'un bateau?
On a failli le faire dire à Yann Kefelec, qui s'est retenu à temps, et donc il peut être tranquille. La réponse est au 3210. Yann Kefelec, vous restez avec nous, bien entendu, dans un instant, en direction Porquerolles, c'est un endroit que j'adore, pour découvrir la Fondation Carmignac. Oui, chacun a sa faiblesse maritime. En ce qui me concerne, c'est la Méditerranée. Une collection et des créations d'art contemporain, c'est Sophie Orange qui sera notre guide.
Et pour se mettre dans l'ambiance, je vous propose tous, là, de faire comme les visiteurs vont aller voir cette fondation. On enlève nos chaussures parce qu'on visite cette exposition pieds nus. Donc on va faire la même chose pendant la
pluie. Je veux bien.
On va enlever nos chaussures, on se retrouve pieds nus.
J'avais eu mal à retirer mes chaussures.
Yann, chiche.
Bon, mais franchement, oui, c'est du bon, très bien.
Allez, on le fait.
Voilà. Et on tire les chaussettes aussi?
Ah bah oui, pieds nus. À tout à l'heure.
RTL, laissez-vous tenter. Ah là 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 là.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Nous avons donc enlevé nos chaussures, bravo. Comme vous nous l'avez demandé, Sophie Orange. Et maintenant, on fait quoi ?
Mais vous allez me suivre pour un voyage à tous les sens du terme. D'abord sur un bateau depuis hier, une toute petite demi-heure de traversée. Ouais.
Nous venons d'accoster à Porquerolles. Bienvenue.
Et ensuite, direction à pied, la Fondation Carmignac, une maison au milieu de la Pinède. Nous allons marcher 680 pas sur un chemin de terre. Bon, je vous rassure, à ce moment-là, normalement, on a encore ses chaussures, j'ai un peu anticipé. Le mât se voit de loin, superbe, trois cyprès nous accueillent. Et déjà, droit devant, la première œuvre d'art, le dragon légendaire de Porquerolles, signé Miguel Barceló. À gauche, une vue sublime sur la Grande Bleue. Et une fois la grande porte franchie, nous voici dans la Fondation, accueillie par Charles Carmignac, le fils d'Edouard, à l'origine de ce projet fou et démesuré.
Vous pénétrez ici dans l'espace du rituel qui se compose de deux étapes. Donc allez-y, je vous invite à enlever vos chaussures et voici le breuvage qui va calmer et créer une sorte d'espace intérieur. Le sol a été choisi de telle sorte que les énergies vraiment circulent au contact avec la plante des pieds. Ce sol, quand on marche dessus, là on est en train de marcher dessus, qui réveille.
Le breuvage est à base de thym, je ne l'ai pas apporté, c'était un peu plus compliqué. Ce sol réveille parce qu'il est frais, parce que ces carreaux de grès des Indes sont très nervurés avec des mouvements figés comme en ondulation, comme vous savez lorsque la mer se retire et laisse des traces sur le sable. Du coup, quand on marche, on sent ces aspérités de la matière sous les pieds. Visiter pieds nus, c'est une volonté du propriétaire des lieux, Édouard Carmignac.
Pour moi, l'été, c'est pas de chaussures, pas de rasoir, pas de montre.
Et donc, on visite la Fondation pieds nus. Et c'est pas banal de faire une interview pieds nus.
Voilà. Ce que je souhaite, c'est effectivement que nos visiteurs reprennent contact avec le sol, avec eux-mêmes. Plus réceptifs à la beauté qu'on leur propose.
Et la beauté est absolument partout. La mer, bleue, le paysage, la maison, l'architecture, les tableaux, les sculptures.
Et là, on est donc dans la Fondation, voilà. On est bien d'accord.
Exactement. Hein. Pour admirer les œuvres d'art, il faut descendre sous la maison. Et là, miracle, la Fondation est en fait un musée invisible, souterrain, 2000 mètres carrés construit, creusé même, sous la propriété d'Edouard Carmignac, parce qu'à Porquerolles, on ne peut rien construire en surface.
Non.
La loi littorale oblige. Mmh. Nous sommes donc plusieurs mètres sous terre, mais la prouesse architecturale est d'avoir maintenu des arrivées lumineuses, subtilement artificielles ou naturelles. Plusieurs salles d'exposition succèdent dans un plan en forme de croix, telle une cathédrale. C'est puissant. Les murs sont d'un blanc immaculé, épuré. Et au mur, donc, 70 tableaux parmi les 300 qu'Edouard Carmignac possède. Hein. Edouard Carmignac, homme d'affaires, banquier, amateur d'art depuis les années 80.
J'ai choisi des œuvres qui me parlent, qui sont des écailles de moi-même. Et j'espère éveiller chez le visiteur des émotions qu'il n'a pas ressenties ailleurs, que son regard s'ouvre sur des artistes, c'est tout un ensemble.
Alors il y a des artistes connus.
Il y en a des beaux doudous. Hein.
Jean-Michel Basquiat, oui. Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Miguel Barceló donc, ou des artistes moins connus, comme celui qui a créé cette fontaine exceptionnelle aux 100 poissons réalisés pour la Fondation, dans la Fondation, à l'accueil des visiteurs, ou cet ensemble spectaculaire de 1500 pièces de toutes les couleurs suspendues au-dessus de l'escalier. Exceptionnel également, ce plafond aquatique tout en verre, réalisé par l'architecte Mouktar Ferrouj. C'est un élément de l'architecture, mais moi je trouve que c'est une œuvre d'art.
Ce plafond est une plaque de verre de 8 mètres par 9 mètres environ, donc d'un seul tenant. Complètement transparente au-dessus de vous, sur lequel on a de l'eau. C'est un aquarium horizontal qui, par le jeu d'eau et de lumière, permet des reflets et un scintillement de l'environnement naturel.
Et l'effet est saisissant puisque les quatre murs bleus verticaux se mettent à vibrer comme s'ils étaient en mouvement, comme la mer finalement.
Vous nous avez amené une photo. Même en photo, c'est absolument saisissant. Alors, vous nous emmenez au jardin pour suivre la visite.
Ah ben oui, vous allez adorer. Vous promenez dans le maquis. On remet ses chaussures à ce moment-là. Pour admirer les 10 œuvres monumentales, les artistes sont venus ici pour trouver leur inspiration. Ils ont choisi où installer leurs œuvres. Mes préférés, j'en ai deux. D'abord, la couvée. Ces 5 œufs en marbre de Carrare de l'Allemand Niels Udo, posés à même le sol. Ils sont cachés dans une clairière, ils pèsent 4 tonnes chacun. Il a fallu les installer par hélicoptère parce qu'un camion aurait abîmé en roulant des espèces protégées au sol. Et pour vous parler de mon autre installation préférée, on va retrouver de l'autre côté du jardin au nord Amélie Blanchy, chargée des projets artistiques de la Fondation.
Donc nous sommes dans un labyrinthe fait de 214 stèles en miroir. Donc toute la nature environnante est reflétée et amplifiée, ainsi que l'image du visiteur qui se promène à l'intérieur. C'est juste dingue, on ne sait plus où nous sommes. On a l'impression qu'il y a des jeux de transparence, des rayons de lumière. C'est très 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 beau.
Et je me suis même perdue pour en sortir, c'est assez impressionnant. Venir à la Fondation Carmignac, vous l'aurez compris, c'est vraiment une expérience.
C'est un lieu d'art total, c'est un paradis ici, on s'y sent très bien et on aimerait ne jamais partir, surtout avec la plage qui est juste à côté et cette île qui est si belle. Thank you.
Vous l'entendez, la mer, hein.
Oui.
Moi, je ne me suis pas laissé prier pour poursuivre l'expérience, hein, et aller découvrir la plage. Voyage physique et spirituel tellement total que j'ai quand même failli oublier ma valise. À Porquerolles, Fondation Carmignac est donc à découvrir à partir de samedi sur l'île de Porquerolles.
Porquerolles, c'est l'île de mon enfance. Alors, il y a un très bon rosé, et puis il y a la plage au sable d'argent qui est une merveille. Vous connaissez Yann Kefelec?
Très bien, j'ai énormément navigué en Méditerranée, à Porquerolles, à Porquerolles, à Bagot, dans tous ces coins-là que j'adore. Et je trouve qu'on écoute effectivement très bien cette évocation parce que l'on est pieds nus. On est presque à Porquerolles grâce aux pieds nus. J'adore, je vais peut-être rester pieds nus d'ailleurs.
C'est vrai. Bon, bah, en tout cas, nous, on a passé un excellent moment. Merci infiniment de cette visite. Sophie Orange, Yann Kefelec, on se retrouve dans un instant pour se dire au revoir, pour distribuer des cadeaux à nos auditeurs. Et puis on accueillera bien entendu Julien Courbet avec Bernard Lehu.
Vous pouvez remettre vos chaussures.
Je vous remercie.
Merci.
Nous racontions des affaires maritimes typiquement britanniques, ce qui nous ramène à la question que j'ai évidemment perdue et qui
nous
était posée.
Nous tendons nos grandes oreilles
à nos auditeurs pour qu'ils gagnent le dictionnaire amoureux.
Quel est le mot
de la mer,
qui est interdit de prononcer à bord d'un bateau?
Et vous allez donc devoir y répondre, Yann Kefelec.
Comme il est interdit de le prononcer à bord d'un bateau, je vais le dire en anglais, mais je parle très mal anglais. Rabbit.
Bon, voilà. Eh ben, si vous nous avez appelé...
Traduction, le lapin.
Oh, voilà. Bon, au 3210 pour nous dire rabbit ou lapin, eh bien, vous avez gagné ce merveilleux dictionnaire amoureux de la mer, dont nous avons partagé les premières saveurs ce matin avec Yann Kefelec. Il paraît aux éditions Plon aujourd'hui même, et on lui souhaite beaucoup de bonheur. En tout cas, il partagera votre été avec un infiniment de plaisir. Merci Yann Kefelec.
Merci Yves Calvi. Merci Bernard Lehu.
Revenez nous voir au plus vite. Merci à Sophie pour cette visite merveilleuse à Porquerolles. Maintenant, on va retrouver Julien Courbet. Bonjour Julien.
Bonjour, c'est marrant parce qu'il y a aussi des mots qui sont interdits, que l'on ne peut pas dire, comme ça ici RTL. Je crois que c'est Christophe Baldelli qui ne veut pas qu'on dise augmentation. c'est des mots qui sont interdits.
Augmentation, vous le dites en anglais.
Augmentation.
Yes.
Bon, bonne matinée.
Bah, ça tombe bien, je vais le voir demain.
Très bien.
On verra s'il n'a pas fléchi.
Bah, dites-lui Rabbit, on verra bien ce que ça donne.
Merci beaucoup.
Sure.